Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique que vous pouvez également écouter en podcast. Et cette précision, l'actualité évolue très vite. Aussi, nous vous invitons à retrouver les éventuels tout derniers développements dans nos journaux. Cessez-le-feu fragile au Liban alors qu'Israël se félicite d'y avoir affaibli un allié de l'Iran, le Hezbollah qui souffre également de la chute de Bachar al-Assad chez le voisin syrien. Israël aurait dû retirer ses troupes du Liban fin janvier mais a retardé jusqu'au 18 février le retrait complet de ses troupes du Liban Sud, arguant d'un retard dans le déploiement de l'armée libanaise dans cette région. Selon les termes de l'accord, le retrait concernera également les miliciens du Hezbollah. Seule l'armée libanaise et la force intérimaire des Nations Unies au Liban pourront alors se déployer dans la zone. Éprouvée par la crise économique et financière qui dure depuis 2019, ainsi que par les séquelles de la guerre entre le Hezbollah et Israël, le Liban, après deux ans de vide politique, a rallumé la flamme de l'espoir en élisant Joseph Aoun à la présidence du pays. L'État libanais va-t-il pouvoir s'affirmer? L'armée libanaise s'ancrer au sud Liban? L'économie redémarrer? Le Liban sortir de l'orbite iranienne? Les déclarations de Donald Trump sur la prise de contrôle de la bande de Gaza par les États-Unis ont placé la région dans un état de sidération. Regard avec nos invités par téléphone depuis Beyrouth, Anthony Samrani, co-rédacteur en chef au quotidien libanais L'Orient le Jour et auteur de Vue du Liban, la fin d'un pays, la fin d'un monde, point d'interrogation chez Gallimard. Bonjour.
Bonjour.
Et avec mon studio, Karim Émile Bitard, enseignant à Sciences Po. Bonjour.
Bonjour Marie-France.
Anthony Samrani, comment le Liban a-t-il réagi aux déclarations de Donald Trump au terme de la rencontre à Washington entre le chef de la Maison-Blanche et le Premier ministre israélien? Ce projet immobilier américain dans la bande de Gaza, est-ce qu'il est pris au sérieux?
Le Liban n'a pas vraiment réagi, en tout cas le Liban officiel, pour la simple raison qu'il a un peu la tête ailleurs. Assez paradoxalement, à un moment où la scène internationale paraît en pleine décomposition, il y a au Liban le sentiment du retour d'un espoir. Alors que l'année précédente a été terrible, alors que les cinq dernières années ont été extrêmement difficiles à vivre. Donc, tout ce qui sort un peu de cette dynamique, le Liban semble faire un peu abstraction de tout ça en ce moment. Pour autant, il y a eu à la fois au Liban et plus généralement au Moyen-Orient une forme d'attente avant même l'élection de Donald Trump et une forme de Trumpamania au moment de son élection, non seulement parce qu'il était considéré comme un homme fort, mais même parce qu'il était associé à quelqu'un qui pouvait délivrer la paix. Et le fait qu'il y ait eu un accord au Liban Sud, le fait qu'il y ait eu un accord à Gaza, a donné un petit peu, a accentué ce sentiment. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une forme de désenchantement dans la région. La région est en train de réaliser, les poids lourds de la région, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Jordanie, sont en train de réaliser ce que va être Trump 2.0, ce que ça va impliquer pour la région, et va devoir s'y adapter. Est-ce qu'ils sont capables, est-ce que les pays arabes aujourd'hui sont capables de s'adapter à cette nouvelle réalité? Et le Liban devra jouer un rôle, bien sûr, à ce niveau-là. Ça va être ça, la grande problématique aujourd'hui.
Alors, Anthony Samrani parlait de forme de désenchantement dans la région, après la Trumpmania qui a tout de suite suivi l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Karim Émile Bitard, tout de même, cette proposition de Trump, j'en reviens à la question de Gaza, même si elle est, d'une certaine manière, irréalisable, qu'est-ce que cela dit au Liban ?
C'est quelque chose qui risque de déstabiliser l'ensemble de la région, le Liban, l'Égypte, la Jordanie, éventuellement la Syrie. C'est vrai qu'aujourd'hui, cet état de grâce dont Trump a pu bénéficier au Liban commence à s'estomper, mais il faut quand même rappeler que cette déclaration n'est pas si surprenante que cela. Déjà en mars 2024, son gendre Jared Kushner avait très clairement exposé ce projet de transformer Gaza en une sorte de Côte d'Azur, sur la Méditerranée, de projets immobiliers. Il a dit que ce serait très lucratif et il avait déjà dit qu'il faudrait nettoyer, ils utilisent toujours ces termes-là, nettoyer la bande de Gaza. Ce qui est effarant, c'est quand même aujourd'hui, en 2025, on parle avec une telle légèreté de la déportation de près de 2 millions de personnes. On dit on va les relocaliser, comme disait Molière, qu'en termes élégants, ces choses-là sont dites, c'est pas relocaliser Madame Michu qui prend sa retraite fait, qui va au Vésiné. On est en train littéralement de parler de l'expulsion, du nettoyage ethnique, de la déportation de près de 2 millions de personnes. Donc c'est irréalisable, bien sûr, mais ça en dit long sur l'état de notre monde, ça en dit long sur le nouveau Far West qu'est ce Moyen-Orient, sur le mépris du droit international, sur le retour de la politique de puissance, et le Liban, comme souvent, risque d'en payer le prix.
Alors, je sais qu'il y a pas mal de choses qui ont circulé sur les réseaux sociaux, Anthony Samrani. Bon, tout est possible, et puis avec Trump, finalement, il n'y a plus de questions idiotes, donc je pose ma question idiote. C'est un projet immobilier américain dans le sud Liban, précisément, avec tout ce qui s'y passe, et on y viendra. En tout cas, voilà, ça circule sur les réseaux sociaux. Ça veut dire aussi qu'il reste quand même un peu d'humour, mais c'est un humour compliqué.
Oui, c'est un humour noir, et en même temps, comme vous le dites, on a généralement deux types de réactions face aux outrances de Donald Trump, et les deux réactions, à mon avis, sont insuffisantes aujourd'hui. L'une, c'est de réagir sur le registre de l'émotion et de se dire « il est fou », et l'autre, c'est de se dire « c'est une tactique qui vise à occuper l'espace médiatique, à améliorer ses positions dans les négociations ». Mais dans les deux cas, on passe à côté de ce que Karim vient très bien de rappeler, c'est l'effet du délitement sur tout ce qui a constitué le système international moderne. C'est à quel point on est en train de casser toutes les normes, casser tous les codes. Donc effectivement, la possibilité qu'il se passe quelque chose au Liban Sud, ce serait probablement plutôt le maintien d'une présence israélienne qu'une occupation américaine. Mais même un maintien à long terme d'une occupation israélienne, ça va faire le jeu du Hezbollah, ça va faire le jeu de l'Iran, ça va compliquer l'action du nouveau gouvernement et du nouveau président, et ça aura des effets très délétères bien au-delà de la scène libanaise.
Alors, Karim Emil Bitar, le maintien d'une présence israélienne au sud Liban, c'est aujourd'hui ce que craint le plus le Liban ?
Absolument. Israël a occupé le Liban entre 1978 et 2000. Cela a entraîné la naissance, après notamment l'invasion de 1982, de mouvements comme le Hezbollah. Et cette occupation, si elle devait perdurer, donnerait à nouveau du grain à moudre à l'ensemble de cet axe de la résistance qui est aujourd'hui en déconfiture. Par ailleurs, la position israélienne semble être aujourd'hui maximaliste. On exige un respect de toutes les clauses de ce cessez-le-feu qui sont assez strictes. Et le Hezbollah semble encore dans le déni, ne semble pas encore avoir pris la mesure de la rigidité de ces clauses qu'il a quand même lui-même acceptées à travers le président du Parlement libanais, Nabih Berri. Donc le Hezbollah espère probablement que le scénario de 2006 se reproduira, c'est-à-dire qu'on donnera une interprétation minimaliste de la résolution 1701 des Nations Unies, mais Israël n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Ils ont fait passer le message aux deux généraux français et américains en charge du respect du cessez-le-feu qu'ils n'hésiteront pas à frapper à nouveau le Liban si l'armée libanaise ne désarme pas le Hezbollah. Et nous commençons à voir déjà des frappes par-ci par-là, le recours à certains drones. Donc il y a un véritable risque que la déstabilisation ne revienne s'il n'y a pas de pression internationale forte sur Israël pour qu'elle se retire avant la date limite.
Vous écoutez RFI Géopolitique.
Alors, pression internationale sur Israël, finalement, elle ne peut venir que des États-Unis. Je rappelle l'accord, et je parle sous votre contrôle, bien sûr, à tous les deux. Selon donc l'accord de cessez-le-feu, l'armée libanaise devait se déployer aux côtés des casques bleus de la FINUL dans le sud au fur et à mesure du retrait de l'armée israélienne sur une période de 60 jours. Le Hezbollah doit aussi retirer ses forces au nord du fleuve Litani, à environ 30 km de la frontière libano-israélienne, et démanteler toute infrastructure militaire restante dans le sud. Karim Emil Bitar parlait du déni du Hezbollah. La période de retrait a été prolongée jusqu'au 18 février. Anthony Samrani, comment voyez-vous les choses ?
fait, ce que les Libanais ont mal compris, à mon avis, dans cette séquence, c'est qu'il y avait en fait deux accords. Il y a un accord qui a été signé, qui est celui que vous venez de résumer, et qui est plus ou moins une application de ce qu'était la résolution 1701 de l'ONU. Et le Hezbollah se dit donc, de la même façon que je ne l'ai pas appliqué totalement la dernière fois, je pourrais le faire aujourd'hui. Et il y a un autre accord qui, à mon avis, est beaucoup plus important, qui a été signé entre Israël et les États-Unis et qui donne le droit à Israël d'intervenir presque à sa guise dans toute la partie sud du pays et de faire pression sur le Hezbollah dans l'autre partie du pays. Et ça, donc, effectivement, ça met une pression très forte sur le parti chiite. La question, la première, c'est est-ce qu'il va reporter tout son projet de résistance dans le nord du pays où il est plus à l'aise et donc ce sont les Libanais qui vont payer le prix. Et la deuxième, c'est avec la possibilité d'une opération contre l'Iran, avec la possibilité d'un affaiblissement total, voire d'une destruction de ce qu'on a appelé l'axe de la résistance, est-ce que le Hezbollah va être capable de se réinventer, de devenir un parti politique comme les autres, ou est-ce qu'il va aller au bout du déni, c'est-à-dire se dire « je préfère mourir qu'être autre chose que ce que je suis aujourd'hui ».
Kerem Emilbitar.
C'est une question à laquelle ils n'ont pas encore de réponse eux-mêmes, je ne le crains. Le choc qu'a constitué l'assassinat de Hassan Nasrallah le 27 septembre 2024 n'a pas encore été absorbé. Ses funérailles n'ont pas encore officiellement eu lieu. Le traumatisme de la communauté des adhérents au Hezbollah reste très puissant. Donc je pense qu'il faudra encore plusieurs semaines, sinon plusieurs mois, pour que la question du rôle à venir du Hezbollah ne se décante. Ce qui est clair, cela dit, c'est que l'Iran, semble-t-il, avait déjà pris sa décision il y a 2 ou 3 ans de se focaliser sur la survie de son propre régime. C'est peut-être pour cela qu'elle n'a pas été très loin dans le soutien de ses alliés régionaux et certains soutiens du Hezbollah au Liban estiment qu'ils ont été lâchés par l'Iran. Et ce qui a été proclamé hier par l'Iran, le fait de nommer Naïm Qassem, le nouveau chef du Hezbollah, comme représentant de la Wilayat al-Faqih, c'est, je crois, plutôt destiné à renforcer sa légitimité auprès de sa propre base, car c'est quelqu'un qui n'a pas le charisme, le talent oratoire qu'avait Hassan Nasrallah, et il s'agit un peu de le conforter. Donc l'Iran continuera de soutenir le Hezbollah, mais une phase s'est tournée et la priorité du régime iranien, c'est aujourd'hui d'assurer sa propre survie. Et ce qui est révélateur, c'est que avant-hier, Trump a fait sa déclaration fracassante sur Gaza. Hier, il a fait par contre une déclaration qui allait dans un autre sens, dans celui de l'apaisement vis-à-vis de l'Iran, en disant « ni Israël ni les États-Unis ne souhaitent mener une guerre pour détruire l'Iran. Au contraire, nous souhaiterions ouvrir à nouveau une phase de discussion pour parvenir à un nouvel accord nucléaire.
» Alors, de l'Iran, il sera question dans l'émission de demain, mais effectivement, Trump veut un accord avec l'Iran. Alors, les obsèques de Hassan Nasrallah, quelques mots peut-être. Les funérailles ont été annoncées par le Hezbollah pour le 23 février, par précisément donc le successeur de Hassan Nasrallah, Naïm Qassem, officiellement investi comme représentant donc de l'Iran au Liban. Il sera inhumé au sud de la capitale libanaise, donc au sud de Beyrouth. Anthony Samrani, comment le Liban voit-il le projet d'accord entre les États-Unis et l'Iran? Qu'est-ce que Beyrouth en attend ou qu'est-ce que Beyrouth craint?
Alors c'est toujours compliqué de dire Beyrouth dans le sens où il y a des partis politiques qui ont des projets tellement antagonistes que chacun en attend quelque chose en particulier. Je pense que les partis les plus opposés au Hezbollah espèrent qu'il n'y ait pas d'accord, espèrent même que cela finisse par une opération militaire qui aboutirait sinon à un changement, au moins à l'affaiblissement du régime iranien. Et d'autres qui sont soit plus proches du Hezbollah, soit ont une approche plus modérée, aimeraient au contraire que cela se fasse par la voie diplomatique, justement pour que le Liban ne participe pas une nouvelle fois à ce risque d'escalade et d'engrenage. Cela dit, s'il y a un accord aujourd'hui, il ne concernera probablement pas uniquement le nucléaire. Il aura deux autres volets qui sont les missiles balistiques iraniens et le projet régional iranien. Et dans les deux cas, le Liban sera donc concerné au premier chef.
Karim Emil Bitar, vous souhaitez rajouter quelque chose ?
Le Liban devra également, en parallèle avec cette situation régionale dramatique, se concentrer urgemment sur ses problématiques internes. Car après 5 années de crise, sans que l'ombre d'un plan de sauvetage économique, sans la moindre redevabilité en ce qui concerne la justice pour les victimes de l'explosion du port de Beyrouth, pour les victimes des malversations financières, donc il ne faut pas que les enjeux géopolitiques, la menace restera permanente, empêche les Libanais de se concentrer sur ce qui est entre leurs mains et ils devront immédiatement s'atteler, le nouveau gouvernement devra immédiatement s'atteler à ces grands chantiers que sont l'indépendance de la justice, la restructuration des banques, éventuellement aller vers un système décentralisé, réfléchir à une modification du système politique qui a été dysfonctionnel et sclérosé. Donc ce ne sera pas facile simultanément d'assurer une certaine neutralité par rapport aux guerres des axes régionaux qui vont se poursuivre et de se concentrer sur l'édification d'un État. Mmh. Et pourtant, ces deux éléments sont indissociables. Nous ne pourrons édifier un État que si nous parvenons à nous distancier de ces conflits régionaux permanents. Le risque que je vois, c'est précisément celui qu'Anthony a évoqué tout à l'heure. Si Israël continue à occuper le Sud-Liban, cela va inciter tout le camp du Hezbollah et le camp pro-iranien à tenter de réinvestir et de se remettre en selle. Et c'est pour cela que les États-Unis devront, je l'espère, faire en sorte que les clauses de ces cessez-le-feu soient intégralement respectées. Il en va de la stabilité du Liban.
Alors bien sûr, tout
vous
est...
Parliez...
Oui, Anthony Samrani.
Pardon, vous parliez tout à l'heure de la cérémonie d'enterrement de Hassan Nasrallah. Ça risque d'être une démonstration de force. Il y a une tentation aujourd'hui au sein du camp opposé à ce parti de se dire qu'il est fini, qu'il est temps, entre guillemets, de lui imposer un nouveau rapport de force. Et lui va très probablement profiter de ce moment pour montrer qu'il a encore un soutien populaire très fort. Donc on peut s'attendre à des centaines de milliers de personnes, peut-être même plus d'un million dans la rue, avec probablement tous les symboles du parti et peut-être, comment dire, le torse va être bombé à ce moment-là.
Et bien sûr, ces obsèques interviennent 5 jours après le 18 février, date à laquelle, c'est la date qui a été fixée d'ailleurs, et je le disais précédemment, par Israël pour le retrait.
Absolument. Et ces obsèques ne pourront se tenir que s'il y a un accord tacite d'Israël, parce que faire descendre 1 million de personnes dans la rue, ce qui est en effet l'objectif, et initialement, il était même question d'organiser des funérailles à l'échelle régionale avec des événements qui seraient organisés en Irak également. Hassan Nasrallah avait pris une envergure qui dépassait celle du territoire libanais. Donc je suis tout à fait d'accord, ce sera une occasion pour ce parti de montrer qu'il n'a pas perdu son soutien populaire. Il a été affaibli militairement, on estime que 70 à 80% de ses capacités militaires ont été détruites. Il n'en reste pas pour le moins la principale puissance militaire au Liban et sa base populaire lui reste fidèle. Même si on commence à entendre au sein de la communauté chiite des voix discordantes qui étaient longtemps étouffées et qui commencent à réclamer des comptes à ce parti qui offrait un tas de services clientélistes à sa base électorale, mais qui a quand même emmené le Liban dans un aventurisme sans avoir les moyens de véritablement protéger leurs propres partisans. Il n'y avait même pas d'abri au sud Liban, il n'y avait même pas la capacité d'assurer des soins médicaux. Donc derrière tous ces grands discours sur la résistance, il s'est avéré que la société, l'économie, l'environnement de la communauté chiite et du Liban tout entier n'était tout simplement pas en mesure de mener une guerre limitée, ne serait-ce encore moins une guerre de cette ampleur.
Karim Emil Bitar, on vous retrouve avec Anthony Samrani après le journal. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Le Liban au cœur du bras de fer entre Tel Aviv et Téhéran. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis Beyrouth. Anthony Samrani, co-rédacteur en chef au quotidien libanais L'Orient le Jour, auteur de Vue du Liban, La fin d'un pays, la fin d'un monde, point d'interrogation chez Gallimard. Et Karim Émile Bitar, enseignant à Sciences Po. Nous avons terminé la première partie de l'émission sur les obsèques à venir le 23 février prochain de Hassan Nasrallah, qui a donc passé 32 années à la tête du Hezbollah, financé et armé par l'Iran, développant l'arsenal militaire du Hezbollah et puis son influence régionale, notamment via son intervention dans le conflit en Syrie voisine pour épauler l'ancien régime de Bachar el-Assad. Anthony Samrani, la Syrie a toujours exercé une forte influence au Liban. Comment le Liban gère-t-il la question des réfugiés syriens? Ils sont nombreux à avoir franchi la frontière et à trouver refuge au Liban depuis le départ précipité de Bachar el-Assad.
Alors, on pourrait dire qu'il le gère assez mal et qu'en même temps, pour un pays de cette taille, accueillir autant de personnes, on estime qu'il y a entre 1,5 million et 2 millions de réfugiés syriens au Liban, c'est tout de même énorme. Donc, il y a une pression de plus en plus forte des partis politiques pour pousser les réfugiés syriens dehors. Il y a une xénophobie à l'égard de ces réfugiés qui est très forte. Et je crois qu'il faut quand même reconnaître que le Liban a, dans une phase qui était extrêmement délicate pour lui, montré quand même une capacité d'accueil, une capacité en tout cas d'éviter des heurts directs avec les réfugiés qu'il faut saluer. Aujourd'hui, est-ce que la transition de pouvoir en Syrie va permettre d'accélérer le retour des réfugiés? Cela dépendra d'abord de la capacité du nouveau pouvoir à stabiliser son pays, mais aussi des aides internationales, parce que ces réfugiés aujourd'hui, ils ne peuvent pas revenir dans des endroits qui sont complètement détruits. Donc la question sécuritaire est plus ou moins réglée. Il n'y a plus le risque de se faire enlever ou de se faire enrôler de force dans l'armée, mais la question économique reste entière.
Karim Émile Bitar, est-ce que le Liban appréhende les suites de la chute de Bachar el-Assad? Les Assad, on peut le rappeler, considéraient le Liban comme une partie de la Syrie. Est-ce que le nouveau régime syrien pourrait être tenté de faire de même?
Il peut y avoir certaines inquiétudes, mais aujourd'hui, une grande majorité des Libanais se réjouissent quand même de la chute du régime Assad qui a occupé le Liban pendant une trentaine d'années, une occupation qui fut particulièrement inhumaine. Donc la chute du régime syrien a plutôt été accueillie positivement, même s'il y a en effet un risque que nous allions en Syrie vers un nouvel autoritarisme, le fait que on nous dit qu'il va falloir attendre au moins 4 ou 5 ans pour qu'il y ait des élections, pour se doter d'une constitution. Le risque est toujours présent. Le risque principal qui pèse sur la Syrie et aussi indirectement sur le Liban, c'est celui de la fragmentation. Mmh. En Syrie également, il y a toujours la question kurde qui n'est pas réglée, il y a toujours des tensions centripètes. Est-ce que ces nouvelles autorités parviendront à transposer à l'échelle d'un pays tout entier le modèle qui était imposé à Idlib? Ce n'est pas certain. Mais aujourd'hui, les Libanais sont quand même dans un état d'esprit un peu plus serein. On estimait qu'il y avait en effet près de 2 millions de réfugiés. Un responsable des Nations Unies estime que près de 500 000 sont déjà rentrés chez eux, dont une grande partie avant même la chute du régime syrien, pendant la guerre que menait Israël au Liban. Donc aujourd'hui, nous pourrions assister au départ d'un nombre encore plus important de réfugiés syriens, même si le Liban devra probablement continuer à en abriter beaucoup. Et au prorata, ça reste le pays au monde qui abrite le plus grand nombre de réfugiés. Et cela est directement lié à la croissance économique. Est-ce que ce pays pourra relancer son économie? Si c'est le cas, on pourra revenir à la situation des années 90 où il y avait déjà près de 700 000 travailleurs saisonniers syriens. Mais si le Liban s'engonce dans une crise aussi profonde, s'il ne met pas en place les réformes structurelles, cette question des réfugiés syriens pourrait devenir extrêmement dangereuse et pourrait être l'étincelle qui provoquerait de nouveaux incidents entre Libanais et Syriens ou des incidents communautaires.
Anthony Samrani, qu'est-ce que l'on peut dire de la situation économique et financière aujourd'hui au Liban? Quel état des lieux pouvez-vous nous faire?
Alors, on peut dire que rien n'a été résolu depuis 5 ans, donc depuis le début de la crise économique libanaise. On peut dire que les banques sont ce qu'on appelle des banques zombies au Liban, que la plupart des Libanais n'ont pas, enfin la majorité, la grande majorité des Libanais n'ont toujours pas accès à leurs dépôts. On peut aussi dire que la situation est peut-être moins catastrophique que ce que l'on pouvait anticiper à l'époque, c'est-à-dire que les Libanais ont montré qu'il y avait d'autres ressources, peut-être des filets de sécurité interne, une forme de solidarité au sein des familles, des communautés, grâce aussi à l'argent envoyé par la diaspora, qui fait que le pays ne s'est pas totalement effondré alors que c'est ce qu'on craignait. Et la taille de l'économie libanaise et la taille du pays font que si la dynamique politique régionale, mais aussi si les réformes sont mises en œuvre, le pays pourrait repartir assez rapidement. Cela dit, à cette crise économique, c'est tout de même ajouté une très grosse facture liée à la dernière guerre menée par le Hezbollah, qui est estimée à plusieurs milliards de dollars.
Karim Emil Bitar, le Liban espère aussi le soutien financier des riches États du Golfe pour sa reconstruction. Parmi ces États, le Qatar et l'Arabie Saoudite, dont on n'a encore jusqu'à présent pas parlé dans cette émission, qui pourrait, enfin, question, est-ce qu'elle peut avoir un effet de levier sur Israël? On a parlé de cette adhésion de l'Arabie Saoudite aux accords d'Abraham avec rapprochement avec Israël. Je veux dire, est-ce que précisément, quelque chose de particulier à attendre de l'Arabie Saoudite pour le Liban?
Alors, nous assistons à un retour de l'Arabie Saoudite sur la scène libanaise. Leur envoyé spécial a joué un rôle décisif dans l'élection du président de la République, Joseph Aoun, en accentuant la pression sur certains partis politiques libanais. Donc, il y a déjà ce retour qui ne s'accompagne pas encore d'un soutien financier massif. Ils attendent de voir les réformes qui seront mises en œuvre, le rôle du Hezbollah, etc. Pour ce qui est de la relation avec Israël, Trump est toujours dans une optique où il souhaite revenir aux accords d'Abraham, pousser vers la normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël. Mais les Saoudiens ont pris conscience que l'opinion publique dans leur propre pays et l'opinion publique à l'échelle du monde arabe étaient très hostiles. Et lorsque Trump a annoncé vouloir transformer Gaza en une riviera, en une côte d'Azur sur la Méditerranée, il était 3h du matin à Riyad et à 3h15, en moins de 15 minutes, ils ont réagi en publiant un communiqué très ferme, insistant sur le fait qu'il ne normaliserait pas à moins de la création, non pas uniquement de faire espérer un processus visant à la création d'un État, mais de la création d'un État palestinien viable avec Jérusalem-Est pour capitale. Donc les Saoudiens vont essayer d'obtenir le plus de concessions possibles, pas seulement sur la question palestinienne. Aux yeux du prince héritier, elle est secondaire. Il doit tenir compte de son opinion publique. Lui n'est pas quelqu'un qui est particulièrement touché. Mais ils essaieront également d'obtenir des États-Unis énormément de garanties, de soutien militaire, sécuritaire, économique, s'ils doivent aller vers la normalisation. Mais dans l'optique de Donald Trump, ça reste son projet. Il continue de rêver d'un accord Abraham 2.0 qui lui permettrait d'obtenir le prix Nobel, car il n'a jamais digéré que son prédécesseur Barack Obama l'ait obtenu et lui non.
Pas encore. Anthony Samrani, parmi les pays qui ont œuvré pour l'élection du nouveau président libanais, on vient de parler de l'Arabie Saoudite. Il y a aussi le Qatar et puis l'Égypte. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du rôle de chacun au Liban ?
Le Qatar aurait probablement aimé jouer un rôle un peu plus important. Et le retour de l'Arabie Saoudite, le réinvestissement de la scène politique libanaise par l'Arabie Saoudite, a un peu marginalisé le rôle qatari, qui aurait notamment souhaité qu'un autre candidat arrive à la présidentielle. L'Égypte a un rôle plus modéré, plus traditionnel, qui cherche à mettre en relation les partis, son principal souci étant la stabilisation du pays.
Parmi les autres qui ont œuvré donc à l'élection du nouveau président, les États-Unis, Karim Emil Bitar, et puis la France.
Oui, la France avait initialement, il y a 2 ans, suggéré une autre formule avec le même Premier ministre qui a été aujourd'hui désigné, Nawaf Salam, mais avec un président qui était à l'époque Sleiman Frangieh, allié du Hezbollah, ami personnel de Bachar el-Assad. Lorsque cette formule est tombée à l'eau, la France et les 5 pays membres de ce quintet qui était en charge d'accélérer le processus ont mis tout leur poids derrière Joseph Aoun, le commandant en chef de l'armée. L'idée essentielle des 3 pays qui ont le plus puissent pousser la France, l'Arabie et les États-Unis était qu'il fallait que quelqu'un puisse tenir le pays de façon sécuritaire, que la priorité, c'était une phase encore de respect du cessez-le-feu. Et c'est quelqu'un avec qui ils ont appris à travailler depuis de nombreuses années, à qui ils font confiance. Donc, la France a fini par le soutenir et la France cherche à également à préserver son influence au Liban et à revenir également en Syrie. Ils viennent de lancer une invitation au nouveau maître de la Syrie, Ahmed El-Sharar, pour une visite officielle à Paris. Donc les choses sont allées assez vite.
Alors, et concernant les États-Unis, on en a un petit peu parlé dans la première partie de l'émission. Vous avez dit que l'élection de Donald Trump avait été très bien accueillie au Liban et qu'ensuite il y avait eu un certain désenchantement. Est-ce qu'on peut imaginer Anthony Samrani voir les États-Unis avoir, être à même de prendre de la distance par rapport à Israël sur le Liban ?
Avec l'administration actuelle, non. Non, je pense que c'est assez illusoire d'imaginer ça. Il y a deux risques actuellement, je pense, à l'échelle libanaise et même à l'échelle régionale vis-à-vis de ce qu'est l'administration Trump. Le premier risque, on en a longuement parlé au début d'émission, c'est celui du déni, de se dire de ne pas prendre en compte le fait que les règles ont changé, en tout cas les règles ont été totalement dynamitées, que tout est désormais possible. Et avec ce qui s'est passé récemment, donc l'affaiblissement du Hezbollah, l'affaiblissement de l'axe de la résistance, il y a une recomposition à l'œuvre dans la région et il serait malheureux, on va dire, de ne pas l'avoir. Et le deuxième risque, c'est que chaque État ou chaque acteur se dise finalement que, puisque c'est la loi du plus fort qui règne, chacun doit l'utiliser en sa faveur et de façon totalement non coordonnée. Donc si chaque puissance arabe ou chaque puissance de la région se dit « je vais faire un deal avec Trump, je vais faire un deal avec Israël, je vais améliorer ma position » ou bien « je vais utiliser la force puisque les Américains en font autant, puisque la première puissance mondiale, celle qui est censée être le gendarme du système international, le fait », et là ça peut effectivement accélérer la déstabilisation à l'échelle moyenne-orientale.
Alors, pour en revenir à la question du Sud-Liban, avec tous les deux, vous avec moi en studio, Karim Emil Bitar, la question du départ des troupes israéliennes, des engagements également du Hezbollah, se pose la question de la capacité de l'armée libanaise aux côtés de la FINUL à reprendre possession de tous ces territoires. Comment voyez-vous les choses ?
Ce sera en effet l'enjeu majeur. Le scénario qu'il ne faut pas reproduire, c'est celui de 2006, où après la guerre, il y avait eu un soutien massif financier venu du Qatar et d'autres pays. Mais ce soutien avait permis au Hezbollah de se remettre à flot et l'armée libanaise n'avait pas été en mesure de restaurer son autorité sur l'ensemble du territoire. Le contexte était tout autre. Le Hezbollah s'estimait être sorti victorieux parce qu'Israël avait en effet été incapable d'atteindre ses objectifs. Là, il en va tout autrement. Le Hezbollah a subi une lourde défaite. Ils finissent eux-mêmes par le concéder. Ça ne veut pas dire que l'armée sera à même de le désarmer totalement. Il est vrai qu'elle a été soutenue par l'étranger, par une conférence des donateurs, qu'on a recruté un certain nombre de nouveaux soldats. Mais la marge de manœuvre de la FINUL demeure très étroite. Donc, à moins qu'il n'y ait une coopération, une bonne volonté de part et d'autre, je ne suis pas certain que l'objectif de désarmer totalement le Hezbollah, de restaurer la souveraineté de l'État libanais sur l'ensemble du territoire soit totalement réalisable.
Alors on l'a dit, cette armée libanaise, Anthony Samrani, sous-équipée et infiltrée par le Hezbollah.
On insiste beaucoup sur la faiblesse opérationnelle de l'armée et ça peut se comprendre. Effectivement, ce n'est pas une armée aujourd'hui qui est en capacité ni de faire obstacle à l'armée israélienne, ni de désarmer complètement le Hezbollah. Cela dit, l'enjeu principal demeure politique. Si l'armée est soutenue politiquement, s'il y a un consensus politique et même géopolitique pour qu'elle parvienne à jouer son rôle, elle pourra très probablement le faire, d'autant plus qu'elle sera soutenue par de nombreux pays du Golfe et bien sûr des pays occidentaux.
Alors, j'en reviens à la présidence du Liban, Karim Émile Bitar, Joseph Aoun. Qu'est-ce que l'on peut dire de sa personnalité, de son charisme pour prendre la tête d'un pays que l'on a décrit tout de même affaibli et...
À vrai dire, c'est un homme que les Libanais ne connaissaient pas trop. Il était commandant en chef de l'armée, mais il s'exprimait extrêmement rarement. Depuis son élection à la présidence, il a fait quelques discours qui étaient de haute facture, qui ont été très bien perçus par l'opinion publique. Aujourd'hui, sa cote de popularité est assez impressionnante parce que le Liban aime les hommes forts et qu'il est perçu comme le représentant d'une institution militaire qui était la seule institution transcommunautaire dans ce pays. Il a un soutien, ce qui est intéressant, dans la plupart des communautés libanaises et non pas uniquement dans sa propre communauté. Reste à savoir dans quelle mesure lui-même et le nouveau Premier ministre désigné vont être en mesure d'affronter les vieilles pratiques, d'affronter l'État profond, les intérêts privés, ce qui reste des milices et de leur influence. Donc il faudra espérer qu'ils puissent faire front commun et qu'ils puissent aller de l'avant avec le soutien des amis du Liban. À réengager les pays du Golfe, à lancer très vite le projet de relance économique. Autrement, ces espoirs risquent d'être douchés assez vite et nous pourrions assister à une vague, un retour, un backlash, un retour de la vieille classe politique aux élections législatives prévues l'an prochain en 2026.
Alors, puisqu'on parle de calendrier, on va rester à celui de février 2025. On en a parlé, le délai fixé pour le retrait des soldats israéliens et du Hezbollah au sud-Liban, fixé donc au 18 février. On a parlé aussi des funérailles pour Hassan Nasrallah qui auront lieu le 23 février. Anthony Samrani, tout ça, ça va être des événements qu'il va être intéressant, bien sûr, de suivre. Et l'autre événement qui se situe entre les deux, c'est le 14 février, le 20e anniversaire de Rafik Hariri. Un moment important également pour le Liban.
Oui, c'est une année très symbolique au niveau des commémorations, non seulement parce qu'on a les 20 ans de l'assassinat de Rafik Hariri et plus généralement de ce qu'on avait appelé à l'époque les deux grands rassemblements du 8 et du 14 mars, mais aussi parce que c'est l'année des 50 ans du début de la guerre civile libanaise. Et dans un cas comme dans un autre, pour ce qui est de la guerre civile libanaise, on peut dire que nous n'avons jamais totalement réussi à en sortir. Et est-ce que la nouvelle dynamique actuelle, quelque part, ce que promet le président de la République et le Premier ministre désigné, c'est de tourner définitivement cette page? Est-ce qu'ils y parviendront? Quant à l'autre, l'assassinat de Rafik Hariri avait abouti à la défaite de son camp et à la victoire de l'autre camp qui était très largement dominé par le Hezbollah. Est-ce que 20 ans plus tard, cette phase là aussi est terminée? Et est-ce qu'elle peut se terminer sans que cela passe par des affrontements sanguinaires? C'est là, je pense, le principal enjeu.
Ça fait beaucoup de défis en guise de conclusion, Karim Émile Bitar, en 30 secondes.
Ça a toujours été le cas dans l'histoire du Liban, un même cercle vicieux qui se reproduisait à l'infini, la projection de conflits externes sur une situation interne naturellement conflictuelle, mais il y a aujourd'hui véritablement une possibilité qui ne se reproduira plus peut-être de se saisir de ce momentum créé par l'élection du président et la nomination d'un premier ministre qui ont des réputations de grande respectabilité pour enfin enclencher le processus de relance économique et d'édification d'un État, de rebâtir des institutions. Rien de solide ne peut être construit sans des institutions. Il n'y a pas d'homme providentiel, il n'y a pas de sauveur. Il faudra patiemment, pierre après pierre, édifier, sculpter la statue de l'État, comme recommandait le général Charles de Gaulle dans ses lettres aux Libanais.
Merci Karim Émile Bitar. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po. Merci aussi Anthony Samrani, qui était avec nous par téléphone depuis Beyrouth, co-rédacteur en chef au quotidien libanais L'Orient le Jour et auteur de Vue du Liban, la fin d'un pays, la fin d'un monde, point d'interrogation, paru chez Gallimard. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Mathias Golchani à la réalisation et Cécile Lavolo. Vous êtes bien sur RFI. Place au Journal Afrique.
Vous souhaitez réécouter Géopolitique? Rendez-vous sur rfi.fr.